Et j'ai le plaisir, le grand plaisir d'accueillir ce midi ce grand chroniqueur jazz, voyons, qui a été au journal Le Devoir pendant une trentaine d'années, mais à ne pas oublier qu'il a été aussi journaliste économique et éditorialiste, toujours au journal Le Devoir. Bonjour Serge Truffaut.
Bonjour.
Ah, bien évidemment, longue expérience. Bien sûr, ça ne fait pas de vous quelqu'un de très avancé en âge pour autant, mais c'est aussi l'époque où on commençait bien jeune, n'est-ce pas, Serge?
Excusez-moi de vous interrompre, j'ai retenu que vous invitez quelqu'un qui va nous parler des recettes pour éviter la dépression en vieillissant, je crois.
Oui,
c'est ça.
Bon, oui.
Je la retiens, celle-là.
C'est bon, ben oui, mais effectivement, ben c'est un sujet qui est important quand même. Hein. Il faut
oui,
bien vieillir, en effet. Et bon, comme on dit, vous avez quitté le journalisme il y a quand même quelques années, mais pas la musique. Hein. Elle vous habite tout autant, Serge Truffaut.
Oui, effectivement. En fait, j'ai quitté Le Devoir, si vous voulez, mais je n'ai pas pris ma retraite. J'ai écrit deux livres, un sur le blues, un sur le jazz. Et là, on a confectionné avec le camarade Paul Cochon du Devoir. Ces mémoires de jazz. Et parallèlement à cela, bien, je continue mon travail, si vous voulez, de journaliste international.
Mais oui, parce
j'ai
que...
des livres sur Donald Trump, l'ami Donald Trump.
Ah ben oui, parce que vous vous intéressez toujours quand même à d'autres sujets, comme la politique
oui,
et tout.
Oui.
Bien sûr, vous suivez ça de près. Et bon, vous avez votre livre d'abord sur le blues, Les Nomades du blues, hein, on va le nommer. Alors, c'est un recueil de textes qui nous plongeait dans cette musique qui était en quelque sorte un miroir de la société américaine, de toute façon.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est, quand vous parlez de miroir de la société américaine, j'avais pris soin de ne pas consacrer la plupart des sujets de ce livre au blues dit de Chicago. Évidemment, ça reste la capitale du blues de Chicago.
Mm-hmm.
Mais j'avais insisté pour que l'on parle, par exemple, de Los Angeles, de l'Oklahoma, de l'Arkansas et d'autres lieux. J'ai voulu faire un livre ayant une tonalité géographique pour qu'il soit justement le reflet de l'ensemble des États-Unis, non pas cantonner le blues juste à Chicago, si vous voulez. Voilà.
C'est ça. Et évidemment, bon, le blues, hein, des musiques qui sont liées à travers l'histoire, à la condition de vie des Noirs et tout. Mais alors, c'est vraiment un livre fort intéressant. Mais là, ben, évidemment, avec celui-ci, Mémoire Jazz, ben, c'est tout autant intéressant. Bon, c'est en fait 80 chroniques que vous avez réunies, des chroniques que vous avez qui ont été écrites dans Le Devoir à l'époque où vous étiez chroniqueur.
Oui, exactement, oui.
Alors, vous l'avez divisé. Ben, j'imagine que ça n'a pas été facile hein, de faire le choix, de faire le tri. J'imagine que, est-ce que quand vous relisez vos chroniques, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec vous aujourd'hui?
Pas toujours, mais ce que cet exercice m'a permis de constater, c'est quelque chose que je trouve de triste, figurez-vous. C'est qu'il a été très difficile. En fait, ça n'a pas été possible d'avoir... en archive, tous les textes qui avaient été écrits sur le jazz. Alors, c'est comme, si vous voulez, le choix des chroniques a été fait, excusez-moi d'être ennuyé parce que je suis méthodologique, mais le choix des chroniques a été fait en fonction des textes qui étaient, si j'ose dire, disponibles.
Ah, d'accord.
Voilà, bon, je ne suis pas bibliothéconomiste, là, je ne peux pas rentrer dans les labyrinthes
oui,
des
non,
archives,
je ne comprends pas.
Mais ça a été un peu ça a été triste, je trouve.
C'est
fait.
Ça, parce que vous n'avez pas tenu, vous n'avez pas tenu un registre vous-même de toutes vos,
de toutes vos
chroniques. Et parce que vous dites vous-même, on écrit des articles, bon, on les oublie le lendemain et puis on passe à autre chose, mais c'est un peu
exactement.
Ça, le rôle de chroniqueur, hein.
Exactement. On oublie ça, les éditos que j'ai écrits, je ne sais pas moi, sur le conflit, par exemple, israélo-palestinien, on en a écrit tellement qu'on en a oublié les trois quarts, si j'ose dire.
Non, voilà. C'est ça. Donc, alors, vous avez, tant bien que mal, réuni ces chroniques par thème. Hein? Alors, donc, différents chapitres. Bon, par exemple, Big Band du jazz. Enfin, évidemment, ça, c'est des musiciens très connus. Bon, vous faites aussi... vous parlez évidemment du jazz d'ici, bien entendu. Hein. On sait que Vancouver, quand même, vous dites que Vancouver a été la capitale du jazz canadien.
Oui, elle l'était et elle le demeure. Hein.
D'accord.
Vraiment, là, ce qui se passe à Vancouver, c'est absolument extraordinaire comparativement à ce qui se passe ici. Ben, à part le festival, mais ça, c'est autre chose, si j'ose dire. Mais Vancouver, c'est incroyable le travail qui est fait par un musicien qui est également producteur, Corey Witt, le saxophoniste, c'est magistral ce qui se fait là.
Ça veut dire que, bon, si vous parlez de ce qui se fait encore, ça veut dire que le jazz n'est pas mort, en ce sens que, bon, vous avez quand même, vous parlez de que vous avez une certaine idée du jazz. Quelle est cette idée? Comment vous voyez le jazz?
Ben moi, d'abord, je colle à, si j'ose dire, l'espèce de cocktail ou d'alchimie qui est à l'origine du jazz, qui est le gospel et le blues.
Mm-hmm.
Je ne peux pas... J'ai toujours voulu garder cette ligne, si j'ose dire. Par exemple, je sais que d'autres chroniqueurs vont parler beaucoup plus que moi, par exemple, de jazz européen, du jazz ECM, bon, par exemple.
Que vous trouvez un peu trop intellectuel.
Exactement.
Moins viscéral. Moins organique, si on veut.
Exactement. C'est beaucoup moins organique. Et à la limite, ça... C'est-à-dire que le jazz qui est produit par des étiquettes aujourd'hui, comme celle de Vancouver dont on parlait, Stellar Light, Smoke Session, iNote, etc., si vous voulez, ça me suffit. C'est ça, le jazz. C'est eux qui font ce jazz-là. Le jazz, c'est bête à dire, mais il est né aux États-Unis, il a grandi aux États-Unis, en Amérique du Nord. C'est pas comme je dis tout souvent, sur les bords de la Tamise, de la Seine.
Non, c'est dans les eaux boueuses du Mississippi, plutôt, comme vous le dites.
Oui, et des abattoirs de Chicago aussi, comme je dis. Mais si vous voulez, c'est que... Je ne veux pas être ennuyeux, mais je vais vous parler de la formation des pianistes de jazz, des grands pianistes de jazz, mm-hmm. dont d'ailleurs Oscar Peterson.
Bon. Oui,
Oscar
ça vous en parlez abondamment dans votre livre.
Ouais. Oui, a été formé, éduqué par sa sœur, Daisy.
Tout à fait.
Cette femme avait ceci de particulier, elle était très religieuse.
Mm-hmm.
Et elle lui a fait exercer les chants sacrés du gospel pendant des 5 à 6, 7, 8 heures par jour. Alors vous avez Oscar Peterson d'un côté, et de l'autre côté... Vous avez des pianistes comme Bill Evans, qui eux ont été formés à ce qu'on appelle l'école russe du piano. Et il y a, si j'ose dire, il y a une espèce d'océan entre les deux. C'est-à-dire que l'école russe du piano n'a plus rien à voir avec le Mississippi, le gospel et le
blues. Non, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà, c'est ça qui m'agace souvent d'ailleurs.
D'accord.
Quand on parle de... L'école russe du piano, là, ça me...
C'est pas tout à fait comme vous voyez le jazz, finalement. Mais bon, alors c'est ça, c'est vraiment... c'est ça, donc vous trouvez que ce jazz-là ne correspond peut-être pas, en fait, aux véritables origines du jazz. D'ailleurs, le jazz, on s'entend pas nécessairement d'où vient le mot. D'ailleurs, on l'écrivait à une certaine époque avec deux S.
Voilà. Alors... Si les deux S ont été enlevés pour être remplacés par deux Z,
oui.
C'est parce que le jazz avec deux S, à l'origine, ce mot était pour ainsi dire une partie intégrante de l'expression à caractère sexuel qui était jazz moi bleu. Et c'était d'ailleurs en français jazz moi bleu.
Ah bon?
Et, oui,
c'était une expression, c'était, quoi?
Voilà, c'est ça, c'était une expression. En fait, l'origine du mot jazz, et plus que probablement française ou francophone, si je dis créole, on va dire.
D'ailleurs, les Duke Ellington, Miles Davis détestaient apparemment ce mot-là.
Oui, effectivement. Effectivement, même si un directeur de théâtre à Broadway, c'est lui qui avait décidé d'enlever les deux S, il y avait un spectacle de jazz de Nouvelle-Orléans, on va dire, il avait décidé de supprimer les deux S pour les remplacer par les deux Z.
Mm-hmm.
Et parce qu'à cause de cette connotation sexuelle.
Ah bon, bon, bon.
Et c'est ça qui fait que, bon, pour notamment pour Duke Ellington, il détestait ce mot, à cause de cela, justement.
Ah bon, dis donc. Alors voilà, vraiment, vous nous apprenez quelque chose là-dedans, parce qu'on n'avait jamais vu ça comme ça.
C'est sûr. Oui, oui.
Alors...
Vous savez, on oublie qu'aux côtés de Louis Armstrong, il y avait des grands musiciens qui s'appelaient Papa Célestin, Alphonse Picou et par exemple Ferdinand Lamante.
Okay,
qui avant
oui.
d'être Jelly Roll Morton, avant de s'appeler Jelly Roll Morton, son vrai nom, son nom de naissance, c'était Ferdinand Lamante.
Ah bon, d'accord. Alors les origines, bon, c'est ça, ça trahit différentes origines au fond.
Oui, oui.
Tout à fait. Bon, vous trouvez, Serge Truffaut, que bon, le jazz, ben, évidemment, n'a plus une couverture souhaitée que vous souhaiteriez. qu'on ait encore, parce qu'en fait, et vous déplorez un petit peu le fait que, bon, les chroniqueurs d'aujourd'hui parlent de jazz une journée, mais vont parler aussi bien de hip-hop le lendemain et le surlendemain de musique du monde. Mais enfin, vous vous êtes cantonné dans le jazz et vous étiez bien ainsi.
Oui, mais pour moi, ça relevait aussi. Je vais être méchant parce que ça, ce que vous venez de dire m'a valu une volée de bois vert de certains anciens collègues. C'est que, pour moi, c'était une question d'honnêteté, avec un très grand H. Pendant les 32 ans au cours desquels j'ai écrit sur le jazz, j'ai été fréquemment, pour ne pas dire chaque semaine, vous connaissez le métier, des attachés de presse m'appelaient pour parler de tel musicien ou telle musique, etc. Et je n'ai pas cessé de dire que je ne connais rien en musique brésilienne. Je connais rien. À un moment donné, on dit que le hip-hop a eu de l'influence sur le jazz. Je connais rien au hip-hop. C'est une question, pour moi, ça relève de l'honnêteté. Je connais le jazz, et j'écris sur le jazz, mais ne me demandez pas d'écrire sur, par exemple, sur les musiques improvisées. Combien de fois on m'a appelé pour me dire « Ah, il y a ceci, il y a cela », mais je connais rien là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas...
Non, je comprends.
C'est aussi bête que ça.
Alors, vous aviez toujours cette rigueur, mais enfin, on vous connaît pour cette rigueur, bien sûr. Et votre livre, finalement, oui, quoique érudit, en fait, ça nous permet de, je pense, de revisiter ces musiciens-là. Peut-être certains qu'on a moins bien connus, mais qu'on peut redécouvrir très facilement. Vous nous faites des suggestions aussi pour aller entendre ces musiciens. C'est assez complet parce que on retrouve aussi finalement un chapitre consacré, bien entendu, au Festival international de jazz de Montréal.
Oui. Oui.
Est-ce que vous vous ennuyez d'une certaine époque du festival de jazz? Est-ce que vous considérez qu'il y a,
oui,
il y a une belle suite?
Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Je m'ennuie beaucoup de l'époque quand... c'est André Ménard qui a été un programmateur, un excellent programmateur.
Évidemment.
Mais là, on rentre dans quelque chose d'un peu compliqué. Là, j'espère ne pas être ennuyé. Ça, c'est mon côté ancien journaliste de l'économie.
Allez-y.
C'est que la... Je crois, là je vous le dis, c'est une espèce d'hypothèse logique, strictement et bêtement économique, mais la marge de manœuvre des programmateurs du Festival de jazz de Montréal, de La Haye, de Montreux et des gros festivals d'Europe, elle a été, pour ainsi dire, leur marge de manœuvre a été réduite.
Okay.
Par quoi? Par les fusions, acquisitions, changements de propriété de grandes maisons de disques et de médias.
Oui, c'est vrai. Alors, ça a pu compliquer les choses, évidemment.
Voilà, ça a énormément compliqué les choses. Et aujourd'hui, ces festivals, parce que ce n'est pas seulement le cas de Montréal, devraient s'appeler en fait des festivals de musique. Je n'ai rien contre, hein, soit dit en passant, je ne suis pas un croisé, je ne suis pas corporatiste. Mais quand on dit festival de jazz, ce n'est plus la vérité, ce n'est plus la réalité, devrais-je dire. C'est le festival des musiques.
Je comprends.
Puis, ouais.
C'est une espèce d'évolution qui se traduit partout de toute façon. Mais enfin, il y a peu de femmes dans votre livre quand même.
Oui, il y en a très peu.
Mais c'est contextuel, c'est-à-dire c'est vraiment lié au fait que vos chroniques qui étaient disponibles finalement parlaient peu de femmes. Mais est-ce qu'il y en avait autant aussi à l'époque? Bon, reste à voir.
Non, c'est ça. C'est que le problème qu'il y a, je ne veux pas répondre à côté, mais dans le livre que j'ai consacré au portrait des musiciens de jazz, j'ai écrit tout un texte sur Marie-Lou Williams,
ouais,
pianiste, auteur, compositeur et arrangeuse, pour dire quelle est la musicienne de jazz la plus sous-estimée dans l'histoire du jazz.
Mm-hmm.
Le problème, c'est que quand moi j'ai écrit mes chroniques de jazz, Sarah Vaughan, que je pense qu'elle venait de décéder, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, en tant qu'elle était décédée, etc. C'est-à-dire que, je me souviens plus lequel. En tout cas, et on m'a parlé, par exemple, récemment, on m'a parlé de Nina Simone.
Oui, oui.
J'aurais aimé écrire sur Nina Simone. Mais comme j'ai dit aux jeunes qui m'interrogeaient là-dessus, j'ai dit, écoutez, c'est parce que les 20 dernières années de sa vie, Nina Simone, elle les a passées entre des hôpitaux psychiatriques et sa maison. Elle ne faisait plus rien.
Ouais, ouais.
C'est par défaut, si j'ose dire. C'est bête. Hein,
enfin, il y a plein de choses dont on parle, bien sûr, les musiciens d'ici. Là. Je pense aussi à... on va devoir se quitter, Serge Truffaut, cela dit, mais on parle de Jean de Rome, là, justement, je notais ça. Aussi, une institution qui a été le Upstairs, alors... vraiment ce bar qui présente toujours du jazz à Montréal, vraiment, qui survit là-dedans. Et puis, c'est vraiment extraordinaire que ce soit encore là, vraiment une institution. Alors, merci, Serge Truffaut, cela dit. Alors, c'est vraiment, ça nous donne le goût d'aller plus loin. Et puis, relire ces textes, ben, c'est vraiment un bel exercice de mémoire. C'est fantastique.
Merci.
Merci infiniment, Serge Truffaut. Mémoire de jazz. Et on va écouter en terminant Dexter Gordon. Au revoir.
Au revoir.